kayi sa tiam.
Ambiance Africa, c'est l'Afrique qui bouge à Paris.
On se connecte en effet avec le plateau de la radio africaine et c'est en compagnie, comme tous les mercredis, de Djenéba Dembélé. Bonjour et bienvenue, Djenéba.
Bonjour Aïssa, merci. Chaque mercredi, effectivement, dans Debout les citoyens, nous donnons la parole aux initiateurs de projets, aux lanceurs d'alerte et aux acteurs associatifs. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme, certes, et cette journée, c'est l'histoire de femmes ordinaires qui ont fait l'histoire. Elle a choisi de faire de son histoire un combat pour défendre l'éducation de l'enfant handicapé. Ernestine Gomela. Bonjour Ernestine.
Bonjour Djenéba.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des politiques d'éducation et de formation. Vous présidez l'association d'aide à l'éducation de l'enfant handicapé. La scolarisation des enfants handicapés, effectivement, c'est une étape importante, une première étape à leur autonomisation. Alors, elle est capitale, cette éducation, mais en 2017, eh bien, ce n'est toujours pas mince à faire. Ernestine Gomela, vous me confirmerez, il faut encore changer des mentalités, des mœurs, s'investir. Et tout se joue au sein du foyer, mais aussi au sommet des États, alors qu'on estime que déjà 72 millions d'enfants dans le monde sont exclus de l'éducation, dont un tiers sont des enfants handicapés, Ernestine.
Oui, effectivement, le problème de la scolarisation des enfants handicapés, notamment la prise en compte du handicap de manière générale, reste une problématique importante et toujours d'actualité. Et dans le monde, on continue d'estimer qu'à peu près 72 millions d'enfants sont non scolarisés,
oui,
et que parmi ces enfants, le tiers vient des pays en développement, dans des pays notamment d'Afrique subsaharienne.
Oui.
Et encore à l'intérieur de ce groupe d'exclus, la majorité est constituée par les filles. Donc, à partir de ces statistiques, nous avons pensé que ce serait bien de monter une association qui justement ferait du plaidoyer, qui ferait du lobbying et qui ferait de la sensibilisation auprès des familles, notamment en matière du droit à l'éducation de tous les enfants et oui, en particulier des enfants en situation de handicap et les filles. Voilà, c'est ça qui nous a motivés.
Justement, cette association d'aide à l'éducation de l'enfant handicapé, ça fait combien de temps qu'elle existe? Ça fait combien de temps que vous militez pour ces enfants? Comment a commencé votre histoire?
Notre histoire n'est pas partie de mon histoire personnelle parce que les gens ont tendance à penser que c'est parce que je fais partie du groupe de ces personnes-là que je me suis mise debout justement pour défendre la cause. Non, c'est de mon expérience professionnelle que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de statistiques disponibles pour... en ce qui concerne l'éducation des enfants handicapés, je me suis dit s'il n'y a pas de statistiques qui les concernent, ils seront toujours oubliés dans la programmation de tous les plans de développement de l'éducation. Et donc en 1998, j'ai monté l'association d'abord au Cameroun.
Oui.
Et compte tenu des moyens limités que nous avons ou que nous avions, nous avons orienté nos activités vers du plaidoyer, c'est-à-dire être présent partout où on parle des questions d'éducation et dire, écoutez, il y a une frange de la population qui n'est pas prise en compte, les enfants en situation de handicap. Donc, nous sommes venus en France.
Oui.
Et nous avons constaté qu'avec la loi de 2005, il y a des avancées notables. Mais il y avait encore il y a des problèmes, par exemple la mise en place du projet personnalisé de scolarisation, il y a le problème des aides à la vie scolaire. Et du coup nous avons créé aussi l'association ici depuis 2012. Et au niveau local, nous travaillons avec le conseil local du handicap du 6e arrondissement pour faire de la sensibilisation. Nous répondons aux demandes si nous sommes sollicités.
Oui.
Et nous avons rejoint d'autres grands groupes pour justement faire porter notre voix, parce que tout seul, on peut ne pas être très, très, très bien entendu.
Oui.
Et parallèlement, nous avons des projets que nous envisageons de mettre sur l'Afrique. C'est très ambitieux.
Alors ça, on y reviendra au fur et à mesure de cet entretien, mais pour revenir effectivement sur votre manière d'accompagner les familles qui ont des enfants en situation de handicap. Alors ça coûte cher aujourd'hui d'avoir un enfant handicapé. Déjà, c'est difficile moralement, psychologiquement pour les parents, pour les familles, pour l'enfant de découvrir cet handicap. Et derrière, eh bien, vous l'avez noté, il y a certes des aides en France, notamment l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Voilà, il y a des politiques en termes d'infrastructures qui essayent de faire évoluer les choses. Mais aujourd'hui, on peut quand même constater que c'est pas suffisant. Quand on sort dehors au quotidien, on voit qu'en termes d'infrastructures, il y a encore beaucoup de travail à faire pour permettre l'accès est limité aux handicapés. En termes de scolarisation, c'est pareil et ça dépend aussi des pays. Hein. Les mœurs sont différentes en France et au Cameroun. En Afrique, justement, où ça reste un peu plus compliqué, le travail est un peu plus difficile, vous me confirmerez, Ernestine, d'autant plus qu'il y a toujours ce tabou autour du handicap.
Oui, effectivement, ici en France, il y a une politique volontariste qui est mise en place avec, c'est un peu plus compliqué pour certains types de handicap, par exemple, oui. les autistes, c'est pour cela que parfois les parents sont amenés à s'expatrier vers la Belgique, enfin, à envoyer leurs enfants vers la Belgique pour être scolarisés là-bas parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, et les dispositifs sont parfois là à se mettre ensemble pour la prise en charge effective à l'école.
Oui.
Et maintenant, au niveau de l'Afrique, c'est encore un peu plus complexe parce que, comme je disais tout à l'heure, les enfants handicapés parfois ne sont pas visibles, on les garde à la maison, on ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne sait pas, comprend pas toujours les causes du handicap et du coup, on considère parfois que le handicap, c'est la malédiction. Et au niveau de l'école, parfois ce sont les enseignants qui sont réticents à accueillir un enfant justement parce qu'ils sont enfermés dans leurs préjugés. Et les parents aussi qui ne sont pas favorables à l'idée que leur enfant soit assis à côté d'un enfant en situation de handicap parce oui. qu'ils, dans leur croyance, ils pensent que les enfants, le handicap est contagieux. Maintenant, au niveau des politiques éducatives, de plus en plus, et les politiques sont volontaristes parce que dans...
En Afrique aussi?
Oui, dans la plupart des constitutions des pays, il est dit que l'État est garant de l'éducation de tous les enfants. Oui. Et dans certains pays aussi, l'école, l'éducation primaire est gratuite, donc tous les enfants sont les bienvenus à l'école, mais maintenant derrière il n'y a rien de mis en œuvre pour que ces enfants, une fois à l'école, puissent se sentir à l'aise, puissent suivre les enseignements comme tout le monde, puissent bénéficier de tout ce qui est mis en place dans oui. le curriculum pour acquérir des compétences et des connaissances. Donc ça fait une limite importante à la scolarisation des enfants en situation de handicap.
Alors quand on est une association, comment on promeut le droit à l'éducation pour les enfants handicapés sur le continent ?
On se base d'abord sur les conventions internationales oui. que les États ont ratifiées pour leur rappeler à tout moment, à chaque occasion, leurs engagements envers la scolarisation de ces enfants-là. Parallèlement, on intègre d'autres ONG qui défendent les mêmes causes que nous.
Oui.
Et puis, il y a des manifestations qui sont organisées au niveau international, comme la Journée de la Femme, justement, où on peut se retrouver avec d'autres organisations qui défendent l'autonomisation des femmes. Et là, on instille la problématique de la femme en situation de handicap et l'importance de l'éducation des filles en situation de handicap pour être des femmes autonomes. Et voilà.
Justement, vous pouvez nous rappeler pourquoi vous mettez particulièrement l'accent sur les jeunes filles qui sont en situation de handicap plutôt que les garçons?
À partir du constat déjà au niveau mondial, il y a que la cause des femmes est défendue depuis très nombreuses années.
Oui.
Cela signifie que les femmes, par rapport aux hommes, ont des problèmes pour se faire une place dans la société. Et c'est pour cela que tous ces combats sont menés. Et quand en plus on est femme en situation de handicap et que l'on n'a pas eu la chance de se retrouver dans une famille qui comprend et qui met tout en œuvre pour que cet enfant ne soit pas discriminé, la fille en situation de handicap se trouve avec une triple discrimination. D'abord parce que c'est une fille, ensuite parce qu'elle est handicapée. Et voilà. Donc c'est pour cela que nous avons pensé que ce serait bien de mettre l'accent sur la scolarisation et l'éducation des filles en situation de handicap parce oui. que finalement, quand elles grandissent et qu'elles deviennent des femmes, parfois ce sont des femmes qui se retrouvent toutes seules, qui sont
isolées,
qui sont victimes des abus comme les violences sexuelles ou bien des violences domestiques. Et ce sont des femmes qui ne peuvent pas se prendre en charge qui ne peuvent pas se prendre en charge financièrement.
Oui, elles ne sont pas autonomes.
Elles ne sont pas du tout autonomes et ce sont des femmes qui ne connaissent pas leurs droits, donc qui, comment dire, ce sont des personnes pour qui les autres décident. Donc, elle ne décide pas forcément de ce qu'elle aimerait faire, de ce qu'elle voudrait faire.
Oui.
Et je profite de l'opportunité de la Journée internationale des femmes qui est axée sur, dont le thème est axé sur le travail, les métiers, pour dire qu'il faut vraiment davantage mettre un accent sur la formation et l'éducation des filles, parce que c'est grâce aux compétences et aux connaissances qu'elles auront acquises, qu'elles pourront trouver leur place dans le monde du travail.
Justement, vous avez lancé en 2015 votre projet au Cameroun qui vise justement à encadrer ces jeunes filles en situation d'handicap. Où est-ce que ça en est? Ça fait 2 ans aujourd'hui.
Oui, ça fait 2 ans. La première étape, c'était de faire un diagnostic pour recenser les besoins. Et nous avons compris qu'en agissant à la base, donc à partir du préscolaire et du primaire,
oui,
on peut en même temps faire de la sensibilisation auprès des familles pour leur faire comprendre que les filles ont le droit à l'éducation comme tous les autres enfants.
Oui.
Et ensuite, on a identifié les besoins et identifié des partenaires avec qui on pourrait travailler. Et cette première étape, elle est consolidée.
Oui.
La deuxième étape, c'était de voir sur place et d'aller remettre quelques dons, si on peut appeler ça comme ça, et de faire une petite évaluation de ce qui s'était passé pour après notre premier passage, ce qui a été fait pendant l'été dernier.
D'accord.
Et maintenant, la troisième étape, c'est amplifier le projet et trouver de nouveaux partenaires, parce que le nerf de la guerre, c'est surtout le financement.
Ben, toujours, oui.
Voilà. Donc, on a 3 axes d'intervention sur ce projet-là. Il y a la sensibilisation au droit de l'éducation. Oui. Il y a l'accompagnement, donc aider les familles et les enfants à s'inscrire à l'école et puis sensibiliser au niveau de l'école. Et la troisième étape, c'est apporter du soutien, parce que au Cameroun, l'éducation, certes, est déclarée gratuite, mais l'éducation des personnes avec certains types de handicap, ce n'est pas du tout donné. Donc, la plupart de ces enfants sont scolarisés dans des structures privées qui sont payantes. Et nous, on a pensé qu'on pourrait, avec nos partenaires, apporter des bons en déduction des frais de scolarité. Et puis, agir aussi sur la nutrition, parce que certains enfants ont des problèmes de nutrition et ces problèmes sont à l'origine même de leur handicap.
Comment les familles camerounaises qui ont des enfants en situation d'handicap vous reçoivent? Elles sont plutôt ouvertes d'esprit, réticentes à ce que vous fassiez changer les choses pour elles?
Mais elles sont, parce qu'on a signé des conventions de collaboration avec 2 centres.
Oui.
Et ce sont des centres qui accueillent des enfants. Donc, on a commencé avec les parents d'enfants scolarisés dans ces institutions-là. Et on a été très agréablement accueillis. L'idée a été très favorablement reçue. Et je me souviens, lors de la première distribution de dons, le représentant des parents d'enfants disait que c'est notre association apporte quelque chose qui leur manquait, parce que en plus de dons qu'on leur a apporté, on leur a proposé de se mettre ensemble pour avoir des groupes de parole, pour,
oui,
pouvoir échanger des informations, partager leurs expériences, pour,
oui,
se soutenir mutuellement. Et l'année dernière, quand on faisait l'évaluation, ça a été très très bénéfique, parce que ça a aidé à certaines familles de trouver des pistes pour la rééducation des enfants. Et puis, voilà.
On arrive bientôt, enfin, au terme de cet entretien, Ernestine. On va revenir sur la question financière rapidement, puisque c'est quand même le combat, hein, la grosse affaire. Vous avez des subventions, votre association, elle a des subventions?
Nous essayons de ne pas travailler sur la base de subventions. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu comme ça, parce que nous pensons que c'est en étant peut-être très autonome qu'on peut avoir la liberté d'évoluer tel qu'on le souhaiterait. Mais ceci étant, les subventions seraient les bienvenues, et nous travaillons avec des partenaires. Nous avons aussi quelques membres qui font des dons ponctuels. Et donc, le projet, il est tellement ambitieux et on a l'intention d'aller même au-delà de 2020. Donc, ce serait bien de travailler soit avec les fondations, soit avec enfin toutes les personnes qui sont sensibles à la cause de la femme, à l'éducation des filles, à l'autonomisation des filles. Et nous répondons au téléphone 01 43 54 18 95. Nous avons notre site internet sur un moteur de recherche, si on écrit association d'aide à l'éducation de l'enfant handicapé. On tombe sur le site et il y a un petit onglet « Faire un don ». Donc, on pourrait recevoir les dons, on pourrait être contacté pour donner d'amples informations sur le projet.
Tout est dit. Merci Ernestine Gomela. Vous êtes présidente de l'association d'aide à l'éducation de l'enfant handicapé. Bien sûr, toutes les informations que vous venez de donner, elles seront disponibles sur la page Facebook Africa 1 et sur notre site internet www.africa1.com. Je vous remercie de votre participation et puis merci pour votre combat. On vous souhaite une bonne continuation, Ernestine.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Merci Geneva. Il est 9h20 minutes sur la radio africaine.